vécu, les gens continuent à vivre 300, 500, 900. Mais après un temps, les 120 ans se sont appliqués clairement. Et jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a comme appareil, tout ce qu'on a... Et bien aimé, on dit aujourd'hui qu'on prolonge la vie. Mais nous qui allons chanter dans les maisons de retraite, mais c'est quelle vie qu'on prolonge? C'est ça la vie qu'on prolonge. Des gens qui, on est obligé de les nourrir, obligé de les nettoyer, obligé de tout faire pour eux. C'est ça la vie que l'homme prolonge? Non. Si vraiment l'homme prolongeait la vie, on devrait à 115 ans avoir l'allure de quelqu'un qui a 70 ans. Mais non, on voit que l'homme force, mais en forçant, il produit quelque chose de fatigué, de malade, comme on dit, kakoshim, quoi. Donc, c'est des gens qui vivent, mais avec toutes sortes de maladies, avec toutes sortes de problèmes physiologiques. C'est du forcing, mais ça ne marche pas. Le Seigneur a dit 120 ans, c'est 120 ans. Moi, c'est un passage qui m'a toujours impressionné. Et quand je vois le saut technologique, scientifique, l'évolution, mais on n'y arrive pas. Donc, on réalise. Parce que l'homme meurt. On peut dire, oui, bon, les hommes meurent. On est tellement habitués que ça ne nous interpelle pas pour dire, mais c'est quand même Dieu qui avait dit que l'homme mourra, quoi. Et même scientifiquement, on n'arrive pas à trouver les raisons de la mort, les raisons de la du vieillissement. On n'a pas de raisons scientifiques. Mais on est tellement habitué qu'on a, bon, ça ne nous émeut pas plus que ça. Alors que là, 120 ans, avec toute l'évolution technologique, on n'arrive pas à dépasser. Oui.
En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est les fils de Dieu qui ont péché, mais là, quand Dieu donne la punition, il donne la punition aux hommes.
Ah, c'est les deux qui ont péché, c'est pas seulement les...
Oui, parce que la punition, il dit, mon esprit ne va pas toujours dans l'homme, parce que... Voilà.
Oui.
On dirait qu'il punit que l'homme quand il parle des...
Bon, c'est ça que nous on voit là. Mais certains pensent qu'il a puni aussi les anges de d'autres fois. Il les a enchaînés, ces gens, ce sont ces anges-là. Donc c'est une supposition. Donc il les a plus laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Alors que les autres démons sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent. Voilà, donc l'histoire de 120 ans, c'est vraiment un témoignage de la puissance de la parole de Dieu, de la grandeur de la parole de Dieu. Et nous continuons au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Là, la méchanceté humaine est soulignée clairement. En réalité, cette méchanceté, telle qu'elle est montrée là, nous, à notre époque, on commence un peu à la vivre, mais c'est faible. Pourquoi? Parce que nous sommes environnés, nous sommes dans une société qui a été influencée par les lois de Dieu. Notre code civil, notre code pénal, voilà, ont trouvé leur inspiration dans les commandements de Moïse. Et certaines pratiques du genre resto du cœur, tout ce qu'on voit, l'amour, à travers les aides entre humains, ça s'est inspiré de l'amour que Jésus a témoigné pour les humains. Nous vivons dans une société qui a été marquée par les lois de Moïse et par la loi d'amour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne ressentons pas ce qui est écrit là. Au fait, si on n'était pas dans ce genre de société, nous vivrions textuellement ce qui est écrit là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. On vivrait vraiment la grandeur de la méchanceté. On verrait des gens vendre leurs enfants, comme il y a on a eu récemment une stagiaire qui a calculé que, parce que dans sa formation, il y a plusieurs phases. il y a la phase 1 où tu es rémunéré d'une certaine manière, la phase 2 où tu es rémunéré d'une autre manière encore. Donc elle a calculé que si elle tombait enceinte dans la phase 2, elle sera mieux payée par Pôle emploi. Donc elle va tomber enceinte pour être bien payée par Pôle emploi. Donc vous vous imaginez quelqu'un qui utilise un enfant comme source de revenus. Et c'est ça la réalité de la méchanceté de l'homme. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, c'est choquant, impensable. Mais ça existe. Voilà. Donc, et maintenant, comme à l'époque, il n'y a pas encore de loi. Donc la loi est venue calmer la méchanceté. Mais pas l'effacer, mais la calmer. Au moins, il y avait une loi qui disait ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et donc, ça a calmé. Ça a mis des limites un peu à la méchanceté. Mais imaginez maintenant une société où il n'y a pas encore de loi. Et c'était l'époque. La loi de Moïse n'était pas encore donnée. Donc les gens ont vu la méchanceté clairement. Dieu lui-même a vu clairement que l'homme, quand il est abandonné à lui-même, quand on laisse son cœur s'exprimer, ça peut produire des dégâts immenses. Immenses, immenses, immenses. Il suffit de regarder la Deuxième Guerre mondiale. Tu comprends que l'homme est vraiment méchant. Quand tu vois que ceux qui ont gagné la guerre, ils ont pris des soldats italiens. Ils étaient environ 700 000. Ils les ont fait marcher à pied pendant des kilomètres. Et il y en a qui mouraient en chemin comme ça, juste pour se venger. Quand on voit des scènes de la Deuxième Guerre mondiale, on dit, mais c'est pas possible, les humains sont vraiment méchants. Donc quand il y a, or, c'est pendant la guerre qu'il n'y a plus de loi. Dans la guerre, on ne respecte plus les lois. Lorsqu'on est dans un endroit où les lois ne sont pas respectées, c'est là que tu vas voir la vraie face de l'homme. J'ai vu des scènes de guerre, Japon, États-Unis. Les prisonniers, non, les soldats qui étaient tombés, par exemple, tu tombes sous la balle. Mais tu es encore vivant. Sur les balles, tu tombes, mais tu es encore vivant. Il y a des gens qui ouvraient la bouche pour chercher les dents en or. S'ils te trouvent avec une dent en or, ils t'arrachent ça. Tu es encore vivant. Et là, la méchanceté humaine est visible, clairement. Mais c'est la loi de Moïse qui est venue arrêter, voilà, limiter les dégâts. Et ensuite, les enseignements de l'Évangile sont venus aussi limiter les dégâts. Mais nous allons vers une époque où, et la loi de Moïse et les enseignements de l'Évangile, on commence à les mettre de côté et à les combattre. Donc nous allons vivre pratiquement ce qu'on voit là dans Genèse. Donc Dieu sera obligé de faire la même chose, de revenir et de nous enlever. Parce qu'on ne pourra plus vivre sur terre. Voilà, on ne pourra plus. Parce que ces deux choses-là, ces deux principes-là, la loi de Moïse, l'évangile de Jésus, qui limitent les dégâts jusqu'à aujourd'hui et par la présence du Saint-Esprit. Mais quand ces choses-là ne seront plus en action, imaginez ce qui va rester. Ça va être très, très, très difficile. Donc, c'est écrit dans Amos 8. Il y a un temps où les gens chercheront la parole de Dieu. Amos 8, 11. C'est prophétisé qu'il y a un temps où les gens chercheront la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas. Ils auront un souvenir. Ah, mais oui, mais la parole disait ceci, j'entendais quelqu'un dire cela. Mais où trouver quelqu'un qui puisse encore nous réexpliquer, nous en parler? Mais ils n'en trouveront pas. Vous imaginez la désolation, comme l'histoire de ce monsieur qui ne croyait pas, ainsi que sa femme. Et à un moment donné, sa femme est devenue cancéreuse. Et elle commençait à en mourir. Un jour, elle se voyait mourir. Elle criait à son mari, « Mais je meurs, je vois l'enfer. Ils viennent me chercher, les anges de la mort. Je vois l'enfer, c'est horrible. » Le mari dit, « Mais ça n'existe pas, l'enfer. » La dame dit, « Non, c'est trompé, ça existe, je vois, ils sont en train de m'y amener, là. » Le mari dit, « Mais je peux faire quoi, là ?» Il s'est souvenu que sa mère lui avait donné une Bible. Et il est parti chercher la Bible dans les tiroirs, il a trouvé la Bible. Mais il ne savait pas quoi lire pour sauver sa femme. il n'a jamais voulu lire la Bible. Il n'a jamais voulu aller à l'église. Il n'a jamais. Il avait la Bible. Maintenant, qui va t'expliquer ça? Personne. Un jour, les gens chercheront la parole, mais ils ne la trouveront pas. Quand ils peuvent la voir, ils ne comprennent pas que c'est une grâce infinie. Mais un jour, tu vas chercher, mais je fais quoi? Qui va m'annoncer la parole? Il n'y a plus personne. Donc, c'est l'état de Genèse, là. C'est qu'il n'y a pas de loi. Les gens vivent comme ça. Il n'y a pas d'interdiction. On vit comme ça. On voit seulement par les conséquences que quelque chose n'est pas bon. Ça tue les gens souffrent, la douleur existe déjà. Donc quand quelqu'un souffre, c'est là qu'il sait que c'est mal. Mais dire les limites du mal, il n'y a pas. Les limites de ceci, il n'y a pas. Donc c'est vraiment un temps de Far West. Comme on disait autrefois aux États-Unis, à l'ouest du Pecos, il n'y a plus de loi. Donc tu vas là-bas, donc c'est ton revolver qui fait la loi. Donc là, il y avait toutes sortes de vices. Parce qu'il n'y avait pas la loi. Et c'est ce qui se passe là. Dieu est vraiment dépassé dans son amour. Il ne comprend pas comment l'homme peut se comporter comme ça. Et il est dit, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et maintenant, c'est une repentance qui n'est pas comme notre repentance. Parce que nous, on se repent de nos péchés. Dieu change d'état d'esprit. Donc repentance vient d'un mot grec qui veut dire métanoïa, qui veut dire changer d'état d'esprit. Il n'est plus dans le même état d'esprit pour que. Quand il créait l'homme, il avait dit que tout cela était bon. Mais là, il n'est plus dans le même état d'esprit. Il dit, mais c'est vraiment pas ça. Et il décide d'exterminer tous les humains. Mais il veut leur laisser quand même une chance. Donc, c'est ce qu'on voit au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un terme qui est un peu complexe, en même temps très simple. Trouver grâce, c'est-à-dire que tu n'as rien mérité, mais on t'accorde une grâce. Mais quand on regarde bien, on se dit, mais quand même, c'est quelqu'un par la suite, qui a bien voulu faire la volonté de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne l'a pas choisi quand même parce qu'il avait vu son cœur qui était disposé? Donc, c'est là, parfois, on peut être troublé par le terme, mais il a trouvé grâce. Mais il faut comprendre la logique de Dieu. Dieu, pour lui, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Quand tu as le péché, tu es passible du jugement. Donc tu dois passer au jugement. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc Noé était aussi pécheur. Sauf que Dieu a ses critères qui font que Noé a trouvé grâce auprès de lui. On peut supposer qu'il avait un cœur réceptif au Créateur. C'est une supposition, ce n'est pas dit là. Là, ce qui est dit, c'est qu'il a trouvé grâce. Donc, on voit que le principe de salut par grâce n'est pas une invention du Nouveau Testament. C'est un principe qui est déjà en filigrane dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas clairement exprimé, mais qui est déjà là, et qui est même avant la loi. Parce que là, on parle de Noé, au verset 8, mais quand on arrivera à Genèse 15, on parlera d'Abraham. Lui aussi, il est dit de lui que c'est par grâce qu'il a été considéré comme juste. Mais pour le moment, nous sommes à Noé. Nous voyons bien que avant même que la loi de Moïse vienne, Dieu parle de grâce. Le salut, en réalité, n'a été prévu par Dieu que par grâce, parce que Dieu est conscient que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Dieu est conscient que l'homme est pécheur et que son état de péché ou bien sa nature de péché ne peut pas l'amener au ciel, ne peut pas l'amener à Dieu. Dieu est conscient. Et donc, il regarde certainement au cœur. C'est ce qu'on va voir plus tard avec David. Donc, et ce qui importe pour Dieu, c'est est-ce que tu as un cœur qui voudrait l'accepter comme Dieu? C'est ça qui importe pour lui. Parce que s'il jugeait en fonction du péché, personne ne serait sauvé. Donc c'est pourquoi le terme grâce est utilisé. Donc tout le monde est sauvé par grâce. Même si parmi tous ceux qui sont sauvés, on voit bien que leur cœur ne ressemble pas au cœur des autres. Mais malgré le fait que leur cœur est disposé à recevoir Dieu comme Dieu, ils restent quand même des pécheurs. Parce qu'ils ont la puissance du péché en eux. Et c'est que c'est Dieu qui dit, bon, je vais les sauver. Parce qu'ils sont disposés à m'accepter comme Dieu. Donc c'est par grâce quand même que le Seigneur sauve. Et verset 9, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc ce qui dérange Dieu, c'est vraiment la violence. Dieu n'aime pas la violence. Et on voit sa sévérité par rapport à la violence. Quand on observe la loi qu'il va donner plus tard, hein, la loi du talion, tu prends l'œil de quelqu'un, on prend ton œil. Et quand il dit que celui qui tue, lui aussi son sang doit couler, Dieu est vraiment contre la violence. Et ce sont ces principes extrêmes liés à la nature de Dieu que on les appelle des Quakers, les Européens qui ont immigré, certains qui ont immigré aux États-Unis. Je crois que c'est eux qui sont même à l'origine de la fête américaine, le Thanksgiving, là où ils mangent la grosse dinde. Ben parce que eux, ils préféraient que les Indiens le tuent. Ils ne se battaient pas. Ils allaient vraiment à l'extrême. Ils appliquaient ce principe à fond. Pas question de faire violence. Donc, il y a plusieurs cas aussi qu'on rencontre des miracles où les Indiens venaient, ils les trouvaient en prière et ils ne les tuaient pas. Donc, mais il y en a aussi qui ont été tués. Donc, eux, ils avaient pour principe, Dieu est contre la violence. On ne peut pas user de violence. Et là, quand on lit, on sent vraiment la colère de Dieu par rapport à la violence. Il dit, la terre était remplie de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Et puis, on fait la description de l'arche. Verset 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Entre autres, après, il fallait donc mettre des animaux dedans. Donc, c'est ce qu'on va lire au chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. C'est pourquoi on considère que Noé a eu affaire à construire l'arche pendant 100 ans, puisqu'on a lu au chapitre 5, verset 32, qu'il a eu ses enfants lorsqu'il avait 500 ans. Et là, Dieu lui parle donc au verset 10, Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. C'est là que la terre est corrompue et Dieu parle à Noé. Donc on suppose que c'est environ 100 ans que ça a dû prendre la construction de l'arche. Et au verset 7, c'est écrit, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Voilà. Je m'arrête sur le verset 11. Ce verset nous dit que le déluge, ce n'était pas que la pluie. C'était aussi les sources de la terre qui ont envoyé les eaux depuis le fond de la terre. Et pour nous, aujourd'hui qui vivons à cette époque, avec tous nos instruments scientifiques, c'est une confirmation extraordinaire. Parce que les scientifiques vous diront que les eaux qu'il y a en dessous de la terre dépassent les eaux qu'il y a au-dessus. Donc cette phrase-là, comme quoi les eaux qu'il y avait en dessous aussi ont été ouvertes pour être envoyées sur la surface, c'est confirmé par la science aujourd'hui. Il y a plus d'eau sous la terre qu'il y en a au ciel. Il y a plus d'eau. Il y a beaucoup d'eau enfouie sous la terre. Et là, ce verset vient encore nous montrer que c'est vraiment Dieu qui a créé tout, il connaît tout. Déjà à l'époque de Noé, c'est dit clairement, il y a les eaux de la pluie, mais il y a aussi les eaux d'en dessous. Donc ce n'est pas les eaux de l'océan, mais les eaux d'en dessous de la terre qui ont rempli toute la terre, de sorte que, voilà, pendant 40 jours et 40 nuits, il y a eu inondation totale. Et verset 13, ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Donc, cette histoire est une histoire non seulement réelle, mais qui est à l'image du salut que Jésus donne. C'est ce que notre frère Pierre explique dans 1 Pierre 3, 21. Donc il explique que le salut que nous avons, qui est symbolisé par le baptême, c'est comparable à l'histoire de Noé. Donc l'arche a été enterrée dans l'eau. Mais ça a été en même temps le moyen de survivre. Et nous, quand nous sommes en Christ, donc le baptême symbolise cela, donc on est enterré. Quand on est baptisé dans l'eau, on est enterré. Ça symbolise notre mort pour ressusciter après. Parce que c'était quand même un coffre, l'arche. À la dimension, si on réduit ça à la dimension humaine, ça ressemble à un cercueil. Et les gens sont entrés dedans pour être sauvés du déluge. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile vivre environ 150 jours dans un coffre pareil avec des animaux sauvages, mais calmés par Dieu. Donc tout ça, c'est ce que ces gens-là ont vécu. Ce n'est pas simple. Et beaucoup de gens veulent que la vie chrétienne soit simple, mais la vie chrétienne est comparée. Son salut, ce salut-là est comparé au salut de Noé. Donc il a été sauvé du déluge, d'accord, mais dans quelles conditions? Vivre dans un coffre pendant qu'il pleut à l'extérieur 40 jours, 40 nuits, et quand la pluie finit, vous devez encore attendre pendant des jours, des mois, dans un coffre avec tous les animaux. C'était vraiment une mort qu'ils ont vécue. Mais une mort qui sauve par la suite. Et je crois que ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche, c'était cette mort-là qu'ils refusaient. Attends, nous n'allons pas quand même entrer dans pareil vaisseau, dans pareil navire. Donc c'est quelque chose de fermé comme ça. On va attendre voir vraiment ce qu'il dit est vrai. Est-ce que la pluie va être ainsi? Mais ils ont péri. Et il y a des gens aussi qui disent, mais non, la vie chrétienne, c'est trop d'interdits, trop de ceci, trop de cela. On n'est plus libre, on vit pour Dieu. Je me souviens même, le jour, il y a une personne qui s'était convertie au milieu de nous. Le jour où elle s'est convertie, donc c'était le... Parce qu'elle avait été invitée par son fils qui était déjà chrétien avec nous. Et elle avait vu son fils changer. Mais surtout, elle avait remarqué que son fils venait beaucoup prier ici. Alors, dans sa tête, elle se disait, mais le temps de promenade, le temps de tout ça, lui, il va prier là-bas. Tout le temps, il va à l'église. C'est quoi ça? Mais le jour où elle est venue au mariage, la prédication a touché son cœur. Et quand on a demandé qui voulait donner sa vie à Jésus, elle avait levé la main. Elle s'était convertie ce jour-là. Elle avait accepté Jésus. Mais quand je l'ai rencontrée sur le parking, elle me dit, d'accord, je crois maintenant en Jésus. Je suis touché par lui. Mais je ne vais pas quand même venir à l'église comme vient mon fils. Hein. Moi, j'ai dit, non, c'est libre. C'est entre toi et Dieu. Donc, vous voyez comment... Quelqu'un peut voir la vie chrétienne de l'extérieur. Elle voit la vie chrétienne comme une lourdeur, comme quelque chose de... Voilà, il y a des contraintes, il y a ceci, cela. Mais quand tu es à l'intérieur, tu fais les choses librement parce que tu aimes. C'est comme quelqu'un qui aime le tennis, il va faire des entraînements tous les jours. Ce n'est pas une souffrance, c'est parce qu'il aime le tennis. Donc nous aussi, nous aimons prier, nous aimons lire la parole. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une souffrance. C'est parce qu'on aime Dieu. Tout simplement. Mais quelqu'un qui est de l'extérieur voit ça comme une corvée. Et je crois que ces gens-là, quand ils voyaient l'arche, ils disaient, mais non, Quentin, on ne va pas entrer dans un coffre. On va mourir là-bas. Et ils préfèrent leur liberté en disant, bon, peut-être qu'il est en train de mentir. Quelle pluie va tomber là jusqu'à 40 jours. Nous, on n'a jamais vu ça. Et beaucoup de gens se disent, ah, est-ce que l'enfer est vraiment vrai? Est-ce que le paradis est vraiment vrai? Ah, moi je reste libre, j'attends de voir. Mais le problème c'est que quand tu vois, tu meurs. Quand tu vois, c'est trop tard. Comme une histoire qu'on racontait en Afrique, un singe qui ne croyait pas en l'existence des crocodiles. Mais le jour où il a vu un crocodile, c'était déjà trop tard. Le crocodile l'a mangé. Donc il y a des gens qui disent, ah mais est-ce que l'enfer c'est vraiment vrai? Est-ce que le paradis, est-ce que tout ça c'est vraiment vrai? Mais le jour où tu vas expérimenter ça, c'est trop tard. Tu es déjà en enfer, tu ne peux plus en sortir. Et du temps de Noé, c'était la même chose. J'ai dit, mais 40 jours, 40 nuits, nous on ne va pas entrer dans un coffre. On attend, on va voir vraiment si ce qu'il dit est vrai. Mais le problème c'est que quand tu vois ça, le coffre est déjà fermé. Et c'est trop tard. C'est ce qui va se passer pour beaucoup de personnes. Au fait, ils attendent de voir. Au lieu de se dire, tiens, il y a trop de choses qui montrent que Dieu existe. Je préfère, même si je doute encore, lui demander de m'éclairer. Éclaire-moi, Seigneur. Voilà. Il y en a qui ne font même pas cet effort de dire, Dieu, si tu existes, éclaire-moi. Ils ne font même pas cet effort-là. Oui.
Oui, pasteur, mais dans l'arche, tout le monde n'était pas invité à rentrer dedans.
Ah, si, si.
Ah bon?
Oui, oui. C'était ouvert, hein. Celui qui voulait, il venait, hein.
Ah, d'accord.
Dans...
Je crois que c'était choisi, qu'il fallait rentrer.
Ah, non. Que... Non, non. Il construit l'arche. Celui qui estime que... Parce qu'il est question de tout ça dans les épîtres. Je vais retrouver le texte. On en parle dans les épîtres. On va commencer d'abord par 1 Pierre. Voilà. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc ils ont été incrédules, les humains. Donc ils ont été incrédules. Et donc pendant que ça durait 100 ans, donc eux, ils restaient incrédules. Alors qu'ils pouvaient dire, bon, quelqu'un qui reste ferme dans sa position pendant 100 ans, c'est qu'il y a un peu de vrai dedans. Est-ce qu'on ne doit pas chercher l'éclairage? Non, ils sont restés incrédules. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens disent, oh, ça traîne. Ça fait longtemps qu'on a dit que Jésus revient. Ça fait longtemps qu'on a dit qu'il y aura la fin du monde. Ça traîne. Oui, mais on voit quand même, si on est sincère, on voit que le monde change. Autrefois, il n'y avait pas de mariage homosexuel. Autrefois, il n'y avait pas d'euthanasie officielle. Donc le monde change. La méchanceté augmente. C'est une réalité qu'on voit à la télé. Savoir qu'en réalité, la France et les États-Unis, c'est eux qui soutiennent Daesh. C'est de la méchanceté. C'est-à-dire que toutes ces guerres-là qu'on voit, ah, mais on a battu Daesh à Ramadi, je ne sais où. Mais quand tu sais que c'est les pays qui gagnent là, c'est eux-mêmes qui financent Daesh, bon, tu te dis, tu ne suis même plus. Voilà. Donc la méchanceté est devenue banale. Donc la France, les États-Unis, c'est eux qui financent Daesh. Maintenant, Daesh vient faire un attentat ici. On fait la pub, mais toi, quand tu sais que c'est les mêmes politiciens là, c'est eux qui financent Daesh. Tu te dis, mais la méchanceté a atteint un niveau très élevé. Donc, si on est sincère, on va réaliser que le monde change dans le sens que la Bible avait déjà prédit. Le monde devient de plus en plus mauvais. Voilà. Donc, si on est un observateur impartial, on doit le reconnaître. On doit le reconnaître et dire que bon, la Bible est en train de s'accomplir, mais les gens restent incrédules avec toutes sortes d'arguments allant dans leur sens, mais un jour, la vérité se manifestera, comme aussi un jour, la pluie a commencé sans finir pendant 40 jours. C'est une réalité et nous aussi, nous devons prendre les avertissements du Seigneur au sérieux et accepter le Seigneur comme Dieu et entrer dans l'arche qu'on appelle Jésus. Amen. Et puis, on prend le chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 20. Genèse 9, à partir du verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave, l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Voilà. Ce texte, pourquoi je le soulève? Parce que c'est un texte qui est utilisé pour justifier l'esclavage, la traite des Noirs. Donc, C'est un texte qui est utilisé par des doctrines racistes pour dire que Dieu a maudit les Noirs. Et à l'inverse, c'est utilisé par les gens qui sont détenteurs de ce qu'on appelle doctrine des religions africaines. Ils utilisent ça pour dire ce que nous avons. La Bible, ce n'est pas pour les Noirs, parce que la Bible contient un texte anti-noir. Et donc, à partir de là, les Noirs doivent s'inventer leur propre religion. Et c'est, ça aussi, c'est un autre mensonge. Donc, c'est pourquoi ils se sont inventés leur propre Messie, leur propre Dieu, ainsi de suite. Et de l'autre côté, c'est utilisé par... Ça a été utilisé, entre autres, en Afrique du Sud, pour justifier la séparation entre les Noirs et les Blancs. Donc, il y a des pasteurs qui ont utilisé ce texte pour dire, puisque Canaan, c'est l'ancêtre de Cush. Cush, c'est Éthiopie, c'est l'Afrique. Et donc, ils ont utilisé ça pour dire, les Noirs sont maudits, et ainsi de suite. Mais, historiquement, ça ne tient pas. Parce que, il n'y a pas eu que des Noirs comme esclaves. Il y a eu des peuples qui ont soumis beaucoup d'autres peuples à l'esclavage. Nous connaissons ce que les Juifs ont subi en Égypte. Ils étaient sous l'esclavage. Il y a toutes les guerres d'autrefois qu'il y avait. Quand la guerre finissait, ceux qui perdaient la guerre devenaient esclaves des autres. Donc l'esclavage n'est pas quelque chose qui a commencé dans les années 1700 ou 1800. C'est quelque chose qui a existé et pratiqué longtemps, bien avant, et à grande échelle aussi. Voilà. Cependant, voilà, pour des raisons économiques, les Noirs ont subi une traite beaucoup plus généralisée, c'est-à-dire dans le sens où il y a eu tout un groupe de pays qui ont fait ça contre une race. Voilà. Mais l'esclavage a toujours existé et ce n'est pas, une doctrine biblique, parce que la Bible dit que tous les humains sont maudits à cause du péché. La Bible ne stigmatise pas un seul peuple. C'est tous les peuples qui sont enfermés dans le péché. D'ailleurs, nous allons lire ça dans Romains 11. Romains 11. Romains 11. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc tous les hommes ont désobéi et ils ont été maudits. Il est écrit dans Romains 3, 23 que vous connaissez tous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont maudits. Donc tous les humains sont maudits à cause du péché. Donc il y a maintenant, à cause des péchés des uns des autres, on peut avoir des conséquences spirituelles par rapport aux péchés qu'on commet en fonction des pays. Il y a dans certains pays, on va voir certaines maladies récurrentes dues, c'est comme des conséquences des péchés commis dans ce pays-là régulièrement. Mais ça, c'est lié à la terre. Mais en parlant de terme malédiction, tous les peuples sont maudits. Et aujourd'hui, sur la terre, quel est le peuple qui a souffert le plus? C'est le peuple dont on dit que c'est le peuple de Dieu. Donc, quand vous lisez l'histoire d'Israël, tout le temps, ils sont dans la souffrance, esclavage. À cause de quoi? À cause de leur péché. Donc, il n'y a pas une malédiction. spéciale pour les Noirs, une malédiction spéciale pour tel peuple, une malédiction spéciale pour tel peuple. C'est en fonction des péchés du peuple. En fonction des péchés, il y a des malédictions. Et on sait que le Seigneur arrête la malédiction lorsqu'on revient à lui. La malédiction va jusqu'à la millième génération. Mais de ceux qui haïssent le Seigneur. Mais lorsqu'on revient au Seigneur, la malédiction est effacée. Donc au lieu que les Noirs s'inventent leur religion, qui est fausse bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Jean 14, 6, le chemin, la vérité, la vie, c'est Jésus. Au lieu de s'inventer sa propre religion, comprenons qu'avec Jésus, toute malédiction est effacée. S'il y avait une malédiction quelconque par rapport aux Noirs, quand tu viens en Jésus, cette malédiction est effacée. Et le peuple qui a souffert le plus dans le monde entier, c'est le peuple juif. Donc on a vu ça, le couronnement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il n'y a pas que les Juifs qui ont souffert. Les Français ont souffert quand ils étaient battus par les Anglais dans les guerres. Les Allemands ont souffert quand ils ont été battus. Donc tous les peuples ont souffert. Les gens qui ont subi l'occupation des Allemands, ils ont souffert. Il y a eu des déportations. Quand vous lisez l'histoire, il y a les guerres entre les Grecs et les Perses. Il y a des milliers de personnes qui sont tuées. Donc tous les peuples du monde entier ont souffert. Et aujourd'hui, si tu crois en Jésus, toute malédiction liée à ta nation est effacée. Toute malédiction liée à ton origine est effacée. Donc ce n'est pas une raison pour s'inventer sa propre religion, soi-disant que la religion, Jésus, c'est la religion des Blancs. Non, Jésus, ce n'est pas la religion des Blancs. Jésus est un Juif. Donc tout vient d'Israël. Donc les Romains qui représentent ce qu'on appelle Blancs, ben, ils ont combattu Jésus. Ils ont combattu le christianisme jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient touchés et se convertissent. Donc ce n'est pas une religion de blanc, c'est Dieu lui-même qui est descendu en homme pour sauver toute l'humanité. Donc ce n'est pas une raison pour faire du racisme en quelque sorte et rejeter la Bible dans une logique raciste. Oui. Et donc beaucoup sont séduits par ces théories-là comme quoi, oui, nous, on a, selon les doctrines bibliques, on est maudits, donc il faut chercher notre voie. Non, non, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Oui.
Moi, j'avais été instruite comme ça aussi. Et je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais que dire de cette malédiction? Il y a quand même des personnes. Tu sais, Shem sera comme ci, Sem comme ça, Japheth sera comme ça. Si la personne n'est pas chrétienne, il y a une certaine malédiction qui est sur la personne? Parce que ça a été dit quand même. Hein?
Non, mais ça a été dit. Mais quand on applique ça par rapport à la traite des Noirs, quand même, c'est quelque chose qui est dit. Là, nous sommes dans les années 3000 avant Jésus. Et nous venons appliquer ça dans les années 1700. Donc, ceux à qui ça a été même dit, je me dis, mais ils n'ont pas vu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui font la traite des esclaves ont fait ça? Est-ce qu'eux, ils s'identifient à Sem? Est-ce qu'ils s'identifient à Japheth? Pas du tout. Ils ne connaissaient même pas Sem, ils ne connaissaient même pas Japheth. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si, je pense que ceux qui ont vécu les temps qui ont suivi ont vu ça. D'une certaine manière. Mais venir spécialement prendre la traite des Noirs, utiliser ça pour dire que c'est cette malédiction-là, c'est du mensonge. Parce que ceux qui vivent ça, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Et puis, Kouch, c'est l'Éthiopie. Mais est-ce que Éthiopie veut dire noir? Ça ne veut pas dire non, forcément noir. Donc, c'est des mélanges que les gens ont faits pour faire l'apartheid en Afrique du Sud et d'autres pour justifier la traite des Noirs. Donc, il n'y a pas une évidence comme quoi Kouch, c'est les Noirs. Voilà, il n'y a pas une évidence.
Parce qu'il disait, Japheth, c'était comme style la Russie. C'est,
oui,
ça,
tout ce qu'on veut. Mais, comment dire, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que tous les humains sont maudits. Que ce soit les Noirs ou pas, ce n'est pas l'esclavage qui est un vrai danger, parce que tu peux être esclave et aller au ciel. La vraie malédiction, c'est ce qui t'amène en enfer. Donc, insister sur l'esclavage, c'est faire comme si l'esclavage t'empêche d'aller au ciel. Alors que quand on lit les Écritures, Paul et Pierre disent aux chrétiens, si vous êtes esclave de quelqu'un, ne quittez pas cet état-là. Parce que ce n'est pas cet état-là qui vous empêche d'aller au ciel. Obéissez à vos maîtres. Donc c'est la preuve même que l'état d'esclavage, ce n'est pas de maintenant. Déjà, Paul et Pierre en parlaient à leurs chrétiens. Ce n'était pas des Noirs, c'était des Juifs. Donc c'était des Romains. Donc il y avait déjà des gens esclaves depuis longtemps. Ça n'a pas commencé en 1600. Et le problème, moi je parle beaucoup plus pour les Noirs. Parce que beaucoup, on leur fait quitter la voie de Jésus par ces arguments-là. Ils se disent, ah ben oui, mais la Bible est contre nous. C'est faux. La Bible dit que tous les hommes sont enfermés dans le péché. Tous, ils sont enfermés dans le péché. Et donc, il y a des malédictions pour tout le monde. Mais la Bible nous dit aussi qu'en Jésus-Christ, tout est oui et amen. Donc, les malédictions sont effacées. Donc, au lieu de polémiquer sur les malédictions des peuples, toi, en tant que chrétien, entre dans la relation avec Jésus et tu sors de toute forme de malédiction. Voilà. Parce qu'il y a des péchés actuels qui produisent aussi des malédictions. Donc si on doit suivre tout ça, on va tomber dans un flou grave. Vaut mieux rester dans la simplicité. Le péché amène la malédiction. Jésus est venu effacer le péché. Je suis libéré de la malédiction. Voilà. Oui, oui.
Excusez-moi, j'ai dû rater quelque chose. Je ne comprends pas en fait le débat des Noirs. Pourquoi on parle de religion des Noirs?
Parce qu'on a lu le texte où Canaan a été maudit par Noé.
Ouais.
Et beaucoup de gens utilisent ça pour dire les Noirs sont maudits, c'est pourquoi il y a eu l'esclavage.
Ouais.
Et à partir de là, donc certains Africains ont décidé de se créer leur propre religion, considérant que la Bible est anti-noire.
À cause de ça?
Oui, oui.
D'accord.
En cause, entre autres, de ça. Oui. Oui.
Pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire concernant Canaan, pas spécialement au niveau du peuple noir, mais par rapport à la promesse faite à Abraham concernant sa descendance qui allait revenir à Canaan. Parce que dans Genèse 15, au verset 16, il est écrit à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens faisaient partie des peuples qui habitaient également sur la terre des Canaan. Et souvent, par exemple, quand on échange avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes, elles ont tendance à dire que, mais si Dieu il est aussi amour et tout, pourquoi il a permis qu'un peuple qui avait sa terre soit dépossédé de sa terre. Du coup, je me demande avec
à cause du péché.
À cause du péché. Mais est-ce que cette malédiction de Noé aussi n'a pas eu un effet? Parce que quand on dit directement à cause du péché, ils disent, mais s'il a amour, pourquoi il n'a pas permis que ce peuple-là puisse se repentir?
Ah si, il permet, dans les défaites contre Israël, les gens devaient constater qu'ils sont... Le Dieu d'Israël est le plus fort. Parce qu'Israël vient avec 1000 personnes, vous êtes... 40 000, ils vous battent. Donc, à partir de là, comprenez qu'ils sont soutenus par une force qui est plus forte. Donc, aller vers cette force-là, les gens n'ont pas compris.
D'accord.
C'est à cause de ça, finalement, qu'il les a... Voilà.
Donc, ce n'est pas lié au fait qu'ils aient été maudits, enfin, que la terre...
Tous les humains sont maudits. Et en parlant de souffrance, c'est les Juifs qui ont souffert plus que tout le monde. Voilà. Donc, si quelqu'un veut utiliser la souffrance comme moyen pour dire, tiens, Dieu nous a délaissés, c'est le juif le premier qui devait se plaindre. Voilà. Mais le Seigneur explique bien, mais c'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés.
Okay.
Donc, les péchés des peuples entraînent des conséquences néfastes. Oui.
Mais, pasteur, Canaan, c'est bien loin de l'Éthiopie, quand même. Le pays Canaan, c'est pays, c'est le pays de la terre d'Israël de départ.
Non, mais là, ben, je ne vois pas... Elle a cité cet exemple.
Non, mais moi, je ne parle pas de l'intervention de... je ne me rappelle plus du prénom. Excuse-moi, ma soeur Geneviève. Non, je parle en général par rapport à l'intervention là, de Cush Canaan, parce que là on dit c'est en fait Cham qui est maudit, mais Cham, tu dis les descendants de Canaan, mais Canaan c'est loin de l'Éthiopie.
Non, Canaan c'est le nom du fils de Cham, et c'est Canaan qui produit les couches, tout ça qu'on appelle Éthiopie, couches, c'est ça Éthiopie.
Et c'est pas la partie aussi d'Israël, la partie de
non,
cette
non,
partie-là.
Non, donc non, c'est
l'ancien pays, enfin avant que
les,
Israël.
Les gens qui utilisent cette doctrine, ils considèrent que puisque Couche vient de Canaan, il subit la malédiction de Canaan.
Non, mais ça j'ai compris. Mais voilà. En fait, si le pays que Dieu a donné à Israël, c'est bien le pays de Canaan à la base.
Oui.
Donc si Canaan, c'est aussi ça, Canaan, c'est pas seulement Couche. Donc ça voudrait dire aussi que ce pays-là, il était maudit aussi. Que les gens qui habitaient là, ils étaient... ça veut dire ça aussi.
Ah oui, ça veut dire ça aussi. Maintenant, il faut faire le lien entre Canaan, la personne, et Canaan, la terre. Est-ce que c'était pour la même personne? Ah, donc ça aussi, c'est un autre lien qu'on doit faire. Donc on verra ça la fois prochaine. Voilà. Donc, nous devons faire attention. Parfois, on prend les gens dans les sentiments. L'homme est un être émotionnel. Ah, mais c'est la religion, c'est pas la religion des Noirs. Non, Jésus n'est pas pour les Noirs, il n'est pas pour les Blancs, il n'est pour personne. Il est pour l'humanité. C'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu n'a pas de race. Il est venu en passant par une femme juive parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu avait commencé par le peuple juif. Et Dieu montre bien qu'il n'a pas de favoritisme. Parce que quand le peuple juif n'a pas accepté le Messie, Dieu s'est tourné vers toutes les autres nations. Donc il ne fait pas de favoritisme. Si tu ne crois pas, si tu n'acceptes pas, il change de personne. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Et tout en continuant son histoire, parce que Dieu est fidèle avec le peuple juif, il a bien utilisé les autres nations. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est nous qui parlons de Dieu d'Israël, puisque Israël, les Israélites eux-mêmes. C'est nous qui parlons de ce Dieu-là. C'est nous qui portons le flambeau sans que l'histoire avec eux se soit arrêtée. Mais donc, le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Il ne faut pas se laisser avoir par la fibre en quelque sorte raciste, sentimentale pour dire « Ah, la Bible est contre ceci, contre cela ». Non, la Bible, c'est pour tout le monde. Vous savez que ce que ces gens-là, ces Noirs-là prennent comme argument, les Juifs aussi prennent le même argument pour dire « Nous ne voulons pas de la Bible parce que la Bible... c'est, les chrétiens sont contre nous, ainsi de suite. Donc chacun, chaque peuple peut utiliser cet argument raciste pour dire c'est pas pour nous. Les juifs aussi disent, Paul, qui est un juif comme eux, Paul était contre nous. Donc nous, on ne veut pas non plus de la Bible. Donc chacun va utiliser l'argument raciste. Donc ça ne sert à rien. Parce qu'au moment où toi tu utilises ça, quelqu'un d'autre va utiliser la même chose, mais qui n'est pas un noir. On va dire, ah mais oui, mais c'est pas pour nous. Un Européen peut dire aussi, ah, mais c'est quelque chose qui vient de Judée. Donc, c'est quelque chose qui vient. Les Arabes aussi vont dire, mais c'est la civilisation judéo-chrétienne. Donc, tout le monde peut utiliser cet argument-là pour dire, c'est pas pour moi. Les Arabes disent, c'est judéo-chrétien. Voilà. Les Européens peuvent dire, c'est un juif. Et les Juifs eux-mêmes disent, mais c'est un juif, mais qui nous a trahis. Il est parti avec nous. Donc, on ne va pas s'en sortir. Humilions-nous, acceptons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement les Noirs, c'est tout le monde. Donc créer des religions noires, c'est perdre son temps et s'attirer plutôt des mauvais esprits plutôt que la vérité. Donc Dieu n'est ni noir ni blanc. Dieu n'a pas de race, c'est lui le Créateur. Il a envoyé son fils Jésus pour sauver tout le monde. Donc, soyons... nous, on a rencontré des gens au Maroc, de beaucoup, c'est surtout dans les milieux étudiants où on amène les gens dans cette logique-là. La Bible, c'est la religion des Blancs. La Bible, et tu vois des jeunes toujours avec une certaine colère et réagir. Non, on dit, mais non, c'est Jésus est venu pour toute l'humanité. Il veut sauver. C'est lui le Fils de Dieu. Il est le seul sauveur. Et il n'y a pas une logique de blanc ou noir. Il est écrit dans Matthieu 28, 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Jésus donne l'ordre de faire de toutes les nations des disciples, en commençant par Jérusalem, Samarie et toute l'humanité. Et aujourd'hui, les plus grandes églises en quantité, les églises locales, ne sont pas en Europe, ne sont pas aux États-Unis, mais elles sont en Corée du Sud, elles sont au Singapour. Donc, qui peut penser qu'il y ait des grandes églises au Singapour? Il y en a même au Japon. C'est pour montrer que Jésus est pour tout le monde. Donc, si les plus grandes églises sont au Japon, Corée du Sud, Singapour, ça montre qu'il est pour tout le monde. Il n'y a pas de on ne doit pas tomber dans ce piège-là. Restons simples et acceptons que le salut que le Seigneur amène. Donc, on va dans Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Dans le pays de Shinéar, ça revient souvent dans la Bible, c'est aussi Babylone. En fait, c'est le même territoire. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » Voilà la fameuse histoire de la tour de Babel. Donc, ils ont bâti une ville. Ils ont voulu bâtir une tour qui puisse atteindre les cieux. Et cela montre l'idée de vouloir toujours prendre la place de Dieu, être à la même hauteur que Dieu. C'est toujours le péché d'Adam qui recommence. L'homme veut toujours prendre la place de Dieu. Il veut toujours s'élever au niveau de Dieu. Et vous savez, c'est écrit, comme ils étaient partis de l'Orient, donc plutôt toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et finalement, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alors, Dieu a confondu les humains comme ça. Mais vous savez que le Parlement européen est construit dans la logique de la tour de Babel. Ben, c'est une information. Allez taper Parlement européen, chercher les origines, c'est construit comme quelque chose d'inachevé. Donc, qui peut encore monter? C'est dans l'esprit de la tour de Babel. Et là, quelle était la devise pendant qu'ils construisaient ça? Ceux qui connaissent, mais au fait, ils s'opposent à Dieu. Là, Dieu les disperse en leur donnant plusieurs langues. Mais quand ce parlement se construisait, la devise était... Oh là là, il faut que je trouve exactement. C'était plusieurs langues, mais un seul peuple quand même. Donc ils se disent, malgré le fait que tu nous as donné plusieurs langues, on peut faire quelque chose ensemble. Voilà. C'est ce que veut dire la devise. Malgré le fait qu'on a plusieurs langues, on peut faire quand même quelque chose uni, ensemble. Donc le Parlement européen est une attaque directe à Dieu. C'est la reconstruction de la tour de Babel. Ça nous montre la réalité du combat qui se joue sur terre. Donc c'est vraiment un combat physique, réel. Je crois que la fois prochaine, puisqu'on va s'arrêter avec ce sujet pour pouvoir le recommencer, on va amener les vidéos, les photos, où vous allez voir comment, quand ça se construisait, quelle était la propagande. C'était vraiment ce que je dis là. On a plusieurs langues, d'accord, mais on forme un seul peuple, un seul projet quand même. Donc, tu ne nous as pas eu. Voilà, tu ne nous as pas eu. On peut toujours faire quelque chose avec un même projet, ensemble, unis. Et c'est des réalités. Quand vous voyez ça, vous lisez ce que dit la Bible, vous dites réellement, il y a un monde avec le diable qui agit contre Dieu. C'est une réalité. Et ces gens-là se mettent ensemble pour résister à Dieu.
Oui, je crois que la devise, c'est « uni dans la diversité ».
Voilà, « uni dans la diversité ». Ça, c'est la devise aujourd'hui. Mais quand ils faisaient la construction du Parlement, ils avaient fait une photo, un dessin du Parlement, et avec une sorte de pub qui voulait dire « on a plusieurs langues, mais on a le même projet ». Voilà, donc c'est là, la devise aujourd'hui, c'est vrai, c'est « uni dans la diversité ». Mais là, c'était vraiment, il y a les langues. Donc on va essayer de trouver les photos où tout ça est mis, parce que c'est des choses qui ont eu lieu il y a environ 40 ans. Oui.
En fait, je ne comprends pas pourquoi c'est une mauvaise chose.
Tour de Babel.
Non, pas ça, mais en soi que...
Le Parlement européen.
Non, qui est l'unité des hommes, en gros, quoi.
Oui, mais qu'on cherche en tant qu'humain l'unité, ce n'est pas mauvais. Mais qu'on l'utilise comme une sorte de défiance vis-à-vis de Dieu. Là, il y a un problème. Parce qu'ils l'ont fait dans l'esprit de la tour de Babel. Donc, si tu vas sur Internet, cherche le Parlement européen, on va te dire que c'est fait par rapport à la tour de Babel. Hein. C'est clair. Hein. Donc, c'est une réponse. Il nous a eu autrefois. Cette fois-ci, il ne nous aura pas. C'est une réponse directe. Donc, ils n'ont pas besoin de dire tour de Babel. Vous voulez faire un immeuble, faites votre immeuble. Mais là, c'est clair. C'est fait. On va vous montrer le dessin. Le dessin de la tour de Babel à gauche, le dessin du Parlement à droite. Ils ont le même dessin et l'inachèvement. Et ils l'ont construit comme ça dans une logique d'inachèvement parce qu'il n'y a pas un sommet pointu. C'est dans une logique d'inachèvement. Voilà, et vous allez voir, si vous cherchez, vous allez voir les deux. Et la tour de Babel dans leur imagination, et le Parlement européen s'est construit de la même manière, et inachevé. Mais là, il défie, il dit, là, cette fois-ci, d'accord, il y a plusieurs langues, mais il y a un même projet. Voilà. Donc tu ne nous auras pas. Et c'est vraiment une défiance directe vis-à-vis de Dieu. D'où toutes les lois que nous voyons qui commencent à sortir. Ça sort. Donc ce Parlement européen sort. Voilà toutes les lois diaboliques qui vont gouverner le monde dans les années à venir. Et c'est ça la réalité. L'homosexualité, le mariage homosexuel, tout ça, c'est des lois qui viennent soutenues par ce Parlement-là. Ça va aller de plus en plus loin. L'euthanasie va être autorisée. Et ce qu'on attend, c'est que finalement, la pédophilie soit autorisée. Parce qu'aujourd'hui, les nations disparaissent. Donc, quand la France veut prendre une décision par rapport à ses intérêts, l'Union européenne dit non, 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 vous n'avez pas le droit. Voilà. L'Espagne veut prendre une décision, vous n'avez pas le droit. Et c'est ce qui va se passer. Donc, ce Parlement européen va prendre des décisions pour tous les pays européens. Et on pense que les États-Unis connaîtront un problème interne qui va faire que c'est l'Europe qui va être très forte et les États-Unis vont être utilisés par l'Europe par une puissance qui va gérer tout ça. Et c'est ce qui va se passer. Donc ce Parlement-là est très, très, très... C'est l'instrument direct de l'ennemi. Donc ce n'est pas le sujet. Donc quand on va trouver ces photos-là, on pourra en parler plus longuement. Mais c'est vraiment... La Bible dit, il y a un verset qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le ciel ». En fait, c'est que la tour de Babel, c'était il y a longtemps, mais là, aujourd'hui, ça se fait encore. Donc, ils ont fait physiquement. Le problème, c'est que Ça serait que dans les écrits. Mais ils vont loin. Ils le font devant vous. Ils construisent physiquement carrément un bâtiment. Voilà. C'est plus seulement les écrits. C'est physiquement qu'ils construisent cela. Et nous, il y a des gens comme Vladimir Poutine qui résistent maintenant à tout ça, qui disent « Non, moi je ne veux pas être mis dans votre truc là, que vous construisez pour être unis, pour faire quelque chose, je ne veux pas. » Et donc il est combattu à cause de ça. C'est des réalités, mais ce qui est choquant, c'est de voir qu'ils vont jusqu'à construire un bâtiment physique qui ressemble à ça. Voilà. Donc prions que le Seigneur nous garde dans la vérité malgré tout ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ce temps de partage, ce temps d'étude biblique. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes dans la vérité avec toutes ces mauvaises nouvelles qui ne cessent de s'accumuler. Aide-nous, Seigneur, à rester biblique, parce que la Bible a fait ses preuves. Quand la Bible dit que l'homme ne dépassera pas 120 ans, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc aujourd'hui, nous avons raison de croire en la parole, Seigneur. Et nous ne voulons pas subir comme le jugement, comme ceux qui ont négligé les discours de Noé, ceux qui ont négligé d'entrer dans l'arche. Nous voulons, nous, entrer dans l'arche vivante qui est Jésus lui-même, ton Fils, Seigneur, afin d'être amené au ciel et vivre dans la paix totale. Merci pour ta fidélité, ta bienveillance et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse.